Vous écoutez France Culture, il est 6h45, bonjour Xavier Martinet.
Bonjour Jacques Meunier, bonjour à tous.
Au sommaire des enjeux internationaux, aujourd'hui l'Arctique russe.
Et oui, russe ou à quelques-uns de plus, c'est une des grandes questions après cette 5e conférence sur la coopération en Arctique qui s'est achevée hier à Saint-Pétersbourg, un forum normalement consacré à la coopération scientifique et environnementale. Moscou cherche aussi à attirer des partenaires et à afficher ses ambitions. Tout simplement faire de l'Arctique une des principales routes maritimes d'ici 5 ans. Vous y étiez, Mikko Mered, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être au téléphone depuis Saint-Pétersbourg ce matin. Vous êtes professeur de géopolitique et économie des mondes polaires Arctique-Antarctique à l'ILERI, l'Institut libre d'études des relations internationales. Alors, il y avait à Saint-Pétersbourg, là, pendant 2 jours, des dizaines d'entrepreneurs, 4 chefs d'exécutifs des pays nordiques, la présence de Vladimir Poutine, Moscou a des ambitions, recherche des partenaires, on va en parler. Mais il y a aussi la réassurance, puisque le ministre de la Défense, Sergueï Lavrov, ministre des Affaires étrangères, a dû assurer que la Russie ne menace personne dans l'Arctique. Est-ce que c'est pas un peu étonnant pour un forum consacré à la coopération, cette réassurance d'abord ?
La coopération, ça passe aussi par là. C'est-à-dire que très clairement, on est sur un forum ici qui est un forum qui, à la base, en tout cas, est un forum en effet plutôt scientifique et environnemental. Quand il a été créé il y a 10 ans maintenant, là c'est la 5e édition et très clairement le forum était très clairement axé sur les questions économiques. Sauf que, comme on le voit beaucoup, pour que l'Arctique russe se développe, ben, le premier des préalables, c'est que l'Arctique reste stable et soit une zone avec le moins de tensions possible. Donc du coup, il n'est pas dans l'intérêt ni de la Russie ni de ses voisins, que ce soit la Norvège, le Danemark, les autres, de créer des risques politiques en Arctique qui pourrait empêcher les investisseurs, les dissuader de venir. Donc à partir de là, il n'est pas anormal que finalement, à partir du moment où on a eu un certain nombre d'escalades langagières ces derniers mois ou ces dernières années sur la question de l'Arctique entre la Russie et certains de ses voisins, eh bien il y ait cette dimension réassurance dans cette coopération, dans ce forum sur la coopération.
Oui, avec deux aspects, les exercices militaires ou bien russes ou bien OTAN, et puis la question de la militarisation de l'Arctique, on va en dire un mot. Pour qu'on parle des ambitions quand même, je le disais, faire de l'Arctique une des principales routes maritimes d'ici 5 ans, ouvrir pleinement ce fameux passage du nord-est pour la Russie. Vladimir Poutine l'a réaffirmé comme il l'avait annoncé en 2017 déjà. Est-ce que c'est possible? Ce serait quadrupler le trafic maritime quand même en 5 ans.
Ah ben c'est tout à fait possible dans le sens où sur ces 3 dernières années, entre 2016 et 2019, hein, bon 2019 c'est encore des estimations mais ça reste assez solide, on va s'apercevoir cet été en 2019 que le trafic aura déjà quadruplé. Donc déjà quadruplé ces 3 dernières années, est-ce qu'il peut encore aller plus loin d'ici à 2024 ? La réponse est oui. Et la réponse elle est oui parce que au-delà des déclarations, on va dire purement politiques, qui peuvent être faites par l'exécutif de la Fédération de Russie, il y a des réalités sur le terrain, des réalités purement économiques. Et ces réalités purement économiques, elles vont dans le sens, tout simplement, des objectifs et des intérêts russes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on parle de l'Arctique, on parle de quoi en Russie ? On parle d'une région qui représente déjà 10% du PIB total russe, qui représente 20% des exportations totales russes. On se parle d'une région, toujours l'Arctique, où vous avez 80% du gaz naturel russe qui provient déjà de l'Arctique. Ce n'est pas quelque chose qui va se faire dans le futur, c'est déjà le cas. Et si on prend le pétrole, là les définitions divergent parce que il y a beaucoup de pétrole qui est développé, à peu près 50% du pétrole qui est extrait dans l'Okroug autonome, la région autonome du Khanty-Mansi, qui est juste à la lisière de l'Arctique. Mais même si on, admettons qu'on ne prenne pas cette région comme étant faisant partie de l'Arctique, eh bien on a à peu près aujourd'hui déjà 20% du pétrole russe qui provient de la région arctique. Donc vous voyez qu'il y a tous ces enjeux-là, et tous ces enjeux-là, évidemment, demandent des moyens logistiques, puisqu'il faut bien faire à la fois venir les marchandises qui permettent de construire des aéroports, des ports, des bases pétrolières, etc. Et de l'autre côté, évidemment, toute la logique extractive pour amener amener ces ressources vers leur centre de consommation.
Oui, parce qu'il y a également de grandes ambitions russes en termes d'infrastructures. Hein. Moscou voudrait 10 nouveaux ports le long de cette côte nord. Il y a également un certain nombre de navires brise-glace, 4 pour l'instant, 3 à venir en plus pour 2023, 13 en tout pour 2025. Quand je disais, est-ce que c'est possible, il y a aussi la question climatique qui s'est posée récemment avec 2 années parmi les plus chaudes en 2016-2018 dans l'Arctique. Est-ce qu'il n'y a pas un pari sur le réchauffement climatique qui est fait dans cette zone, étant donné que beaucoup des développements pourront pas faire s'il n'y a pas un dégel un peu plus permanent de cette banquise?
Alors, il faut bien comprendre que le développement de l'Arctique, ce n'est pas une question de changement climatique. Alors, je sais que ça peut paraître un peu étonnant de dire ça, parce qu'en France, on n'a pas forcément l'habitude de penser les choses de cette manière, mais ce qui fait aujourd'hui qu'on développe l'Arctique, et pas que aujourd'hui en 2019, mais depuis 20 ans, voire depuis 30, 40 ans, pour certaines régions et certains secteurs de l'Arctique, ce sont tout simplement des intérêts économiques. C'est d'abord l'économie qui emmène le développement de l'Arctique, et ensuite le changement climatique n'est qu'un facteur, on va dire, aidant ou aggravant en fonction de vos convictions politiques, bien sûr. Et donc, du coup, le sujet économique, à partir du moment où il est clé, il faut qu'on le prenne comme étant la base du sujet. Donc, quand on parle de tous ces brise-glaces, quand on parle de tous ces ports, ou même des bases militaires hein, russes hein, dans l'Arctique, on parle d'abord d'économie. Le changement climatique, et d'ailleurs Vladimir Poutine l'a dit lors de la plénière de mardi, c'est quelque chose qui va déterminer à quelle vitesse on va exploiter l'Arctique. Et sur deux aspects. Le premier aspect, c'est plus l'Arctique fond et se réchauffe évidemment vite, plus ce sera facile et moins coûteux d'exploiter d'une part les ressources et d'autre part de monter toutes ces infrastructures pour pouvoir assurer cette exploitation. Donc ça, c'est le premier point. Mais il y a un deuxième point qui est à l'échelle globale. C'est-à-dire que si jamais, en effet, le monde transitionne, va vers une transition énergétique, on va dire douce, c'est-à-dire en passant du pétrole-charbon vers le gaz, et bien à ce moment-là, la Russie est extrêmement compétitive. Et ce n'est pas la seule en Arctique. Vous avez l'Alaska qui est compétitive, vous avez la Norvège qui est compétitive. Et d'ailleurs, on a vu Erna Solberg, la première ministre norvégienne, oui, tenir le même discours que Vladimir Poutine durant la plénière en disant « le monde devrait transitionner vers le gaz ». Donc du coup, vous voyez tous ces enjeux-là qui se mettent en place. Mais on est d'abord sur les enjeux économiques.
Oui, avec comme pilier ce fameux gaz naturel liquide qui est exploité à Yamal. Un des exemples justement de coopération économique, puisque la Chine participe, la France également à l'exploitation de ce gisement. Alors, en quelques mots, juste quel bilan est-ce que vous faites de ce forum, aussi bien concernant la coopération ou l'objectif écologique, hein, qui est quand même un des objectifs essentiels de ce Conseil de l'Arctique, les nouveaux financements pour Moscou, comme vous avez dit, il faudrait dépasser ce 10% des investissements en Russie, et puis désamorcer les inquiétudes également.
Oui, je pense que vous avez fait un très bon bilan. C'est-à-dire que ce forum, très clairement, c'était un forum donc de coopération, et l'enjeu principal de ce forum, c'était avant tout pour la Russie d'expliquer et de montrer l'étendue de ses actions en Arctique, et l'étendue de ses actions aussi bien montrer qu'elle est présente sur l'ensemble de la géographie de sa zone arctique, il n'y a pas une zone de l'Arctique où elle n'est pas présente aujourd'hui, et c'est montrer aussi le niveau de développement des projets, le niveau de développement technologique, c'est aussi explorer la question de meilleure coopération sur les zones transfrontalières, donc de la mer de Barents avec la Norvège d'un côté, et les questions autour du détroit de Bering avec les États-Unis de l'autre. Ceci dit, il y avait deux absents très clairement durant ce forum. Le premier absent, c'était évidemment les États-Unis, mais ça, on s'y attendait. Le deuxième absent auquel on s'attendait un petit peu moins, c'était l'absence de la Chine. On a vu les Japonais et les Sud-Coréens être très présents, mais les Chinois, peut-être est-ce que c'est dû au fait qu'ils organisent leur propre forum dans un mois à Shanghai, on ne sait pas, mais en tout cas c'était le vrai absent du forum aujourd'hui.
Même s'ils annoncent la création d'un centre de recherche conjoint avec la Russie, et puis régulièrement des collaborations avec les autres pays scandinaves, par exemple la Finlande.
Oui, absolument. C'est-à-dire qu'ils étaient absents au sens où vraiment on était sur un forum qui était d'abord et avant tout russe. C'est pas non plus anormal. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, la Chine est le seul pays à être véritablement présent de manière bilatérale dans chacun des 8 États de l'Arctique. Présent politiquement, présent diplomatiquement, présent aussi en matière de recherche scientifique et d'investissement pour des projets extractifs et d'autres types de projets du genre tourisme, pêche, etc. Donc le fait que la Chine ne soit pas aussi présente que par exemple la Corée du Sud ou le Japon, c'était un petit peu interpellant.
Et la Chine qui s'est également déclarée une nation, Near Arctic Nation, nation arctique, alors qu'elle en est aussi éloignée que la Pologne. Merci beaucoup pour vos explications, Miko Mered, ce matin depuis Saint-Pétersbourg. Je le rappelle, professeur de géopolitique et économie des mondes polaires à l'ILERI, Institut libre des relations, d'études des relations internationales. Merci.